des héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les Héroïnes sur Canal B. J'espère que vous allez bien en cette veille de week-end prolongé et surtout en cette veille de Marche des Fiertés. Elle a lieu demain à Rennes et on en parlera tout à l'heure avec notre invitée. Aujourd'hui, je suis avec ma fidèle et brillante alliée Marine Combe. Bonjour Marine.
Bonjour.
Rédactrice en chef, fondatrice de YEG Mag, qui est un féministe, un journal féministe rennais que l'on peut lire sur yegmag.fr. On aura Gwen avec nous, par le cœur, la pensée. On passera un très bon son qu'elle nous propose. Nous recevrons donc en deuxième partie d'émission Emma Guiguin. Bonjour Emma.
Bonjour.
Présidente d'ISKIS, centre LGBTI+, de Rennes. On parlera des dernières dégradations haineuses dont le centre a récemment été la cible, du climat ambiant qui n'est pas favorable, c'est peu de le dire, aux droits des personnes LGBTQIA+, en France et partout dans le monde. Et puis, je le disais, on parlera surtout de la Marche des Fiertés qui se déroule donc demain à Rennes et on verra aussi que ça se déroule ailleurs en Bretagne et en France. Marine, on va commencer avec vous. Et Marine, il paraît qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, sauf tout casser, tuer des gens, violer des femmes parce que son équipe de foot a gagné une finale de Ligue des Champions.
Exactement, il paraît qu'on ne peut plus rien dire, il paraît qu'on ne peut plus rien faire, à cause des féministes et des woke. Bienvenue dans l'ère de la fameuse cancel culture. Dernier exemple en date, on peut plus célébrer la victoire d'une équipe de foot parisienne qui vient de remporter la Ligue des Champions. On doit regarder le match, seul dans son canapé, ne pas applaudir, ne pas crier lors d'un but, ne pas exulter devant un 5-0 contre l'Inter de Milan. On se sent isolé évidemment. Samedi 31 mai, on ne pouvait pas descendre dans la rue et fêter dignement le sacre du PSG. Non, ça c'était Marseille bébé, parce que le reste de la France a bien entendu laissé éclater sa joie dans les rues, a fait entendre sa ferveur et a finalement laissé déborder la coupe pour sombrer dans un chaos total. Que s'est-il passé alors face à ce déferlement de violence? Fabien Roussel a incriminé Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, de, je cite, « ne pas savoir faire respecter les règles et la loi dans notre pays ». Au gouvernement, on a incriminé les délinquants et annoncé un durcissement à l'avenir des réponses pénales dans le cas des violences engendrées. On a arrêté les fêtards et on a commencé à les juger à coups de peine de prison avec sursis majoritairement. Les médias ont compté les morts, les blessés, les interpellations et ont cherché, sans trop se faire mal, à pointer les responsables et les coupables en n'oubliant pas de bien mettre à côté. Alors nous, on a quelques idées. Le patriarcat, la virilité, l'éducation genrée, l'hétérosociabilité, la culture du viol. La liste est longue, mais le résultat est celui d'une majorité masculine qui pense sa force et sa puissance dans sa violence, dans sa soi-disant propension à dominer l'espace public, les femmes, les minorités de genre, les personnes en situation de handicap, etc. Celui d'une majorité qui pense que sa masculinité sa masculinité dans une norme réductrice et dangereuse visant à encourager dès le plus jeune âge, pour ensuite légitimer à l'adolescence et à l'âge adulte, le côté bagarreur, violent, virulent et viril des garçons et des hommes. Là, on parle de délinquance, de débordement, de chaos après la victoire du PSG en Ligue des Champions. La France déborde. Des enseignes sont pillées, des poubelles et des voitures incendiées, des bagarres éclatent, notamment entre les supporters et les forces de l'ordre. On sait que ça va arriver. On déploie des cordons de CRS, on prépare la gestion du chaos et ensuite, on regarde ailleurs, on noie le poisson, on tourne autour du pot. Mais de quoi est-ce qu'on ne parle pas? Qu'est-ce qui est tu finalement dans cette affaire? Eh bien, sans surprise, on relate pas les violences à l'encontre des femmes cette nuit-là. On raconte pas ce soir-là les mecs qui ont cogné leurs partenaires, les ont agressés sexuellement, ont tenté de les violer ou les ont violés. On tait la lourdeur des hommes qui, dans les rues, ont harcelé, insulté, menacé les passantes, les femmes dans la foule, etc. On ne dit pas non plus dans les médias que cette nuit-là, de nombreuses personnes LGBTIQ+, se sont fait casser la gueule et ont subi des agressions physiques, verbales, sexuelles, etc. Non, à la place, on parle de violence urbaine, calquant ainsi dans l'inconscient collectif une scène banale d'événements militants, celui de la manifestation politique et syndicale qui tourne à l'affrontement, mais aussi avec un imaginaire raciste, celui des banlieues et des cités qui s'embrasent. S'il s'agit de violences urbaines, dans le sens où elles ont eu lieu en ville, dans l'espace public, il s'agit quand même principalement de violences masculines. Mais ça, on le dit pas. On fait pas le parallèle, on n'établit pas de lien, aussi évident soit-il, on le passe sous silence. Pas parce qu'on ne peut plus rien dire, mais parce qu'on choisit de pas le dire. Les témoignages des violences à l'encontre des personnes sexisées sont les réseaux sociaux qui en ont été le relais, le moyen d'expression et de diffusion, pas les médias. En revanche, voilà un événement qui, lui, a bien été annulé le 24 mai à Mayenne, le Bal des Ardentes. Alors le Bal des Ardentes, c'est une proposition artistique portée par la Brave Compagnie avec Johanna Rocard en collaboration avec Amandine Bro. La Brave Compagnie, je vous en ai parlé en mars, elle organisait 15 jours d'atelier à l'Hôtel Pasteur pour confectionner des masques, cagoules et costumes dans l'objectif de créer un cortège joyeux et flamboyant dans la manifestation du 8 mars. Dans la même veine, donc, le Bal des Ardentes mêle casquette à cornes, masque de perles et manteau à franges, le tout invitant à un dance floor thérapeutique et résistant, je vous lis le descriptif. Une fête joyeuse, ouverte à tous et toutes. Le Bal des Ardentes réhabilite les danses paysannes, populaires, non archivées, pour les remettre au cœur d'un dance floor contemporain. Des performeuses mènent le bal, accompagnant les participants dans un rituel festif atemporel où les danses s'allient aux pratiques somatiques, aux gestes de lutte, à la littérature résistance et à la puissance empouvoirante de la musique. C'est le retour des créatures, des marges et des périphéries qui, à nouveau, embrassent les sols de danse comme un acte collectif de guérison. Ah oui, et aussi, il est question d'espace de soins collectifs, d'hospitalité face aux violences et à la brutalité du monde extérieur. Ça, c'était prévu le 24 mai, au cloître de la Visitation, un endroit désacralisé depuis de nombreuses années, mais la mairie de Mayenne a pris un arrêté pour annuler le bal en raison de quelques voix du RN qui se sont élevées en criant au diable et au rituel sataniste, bien sûr. Et c'est pas sans rappeler les multiples annulations de drag shows en Bretagne comme partout ailleurs. À se demander, donc, de qui parle-t-on lorsque l'on dit « on peut plus rien dire, on peut plus rien faire ». Alors moi, je trouve de la douceur et du réconfort dans la série animée Douce, produite par Vivement Lundi et créée par la rennaise Isabelle Lenoble. C'est court. 9 épisodes de 30 minutes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et sur TVR. Douce, elle est enceinte de son 4e enfant. Elle passe son temps en culotte avec l'arrêt des fesses apparentes et elle nous embarque dans son quotidien de mère, décrite comme égoïste et immature. Elle dit des gros mots, elle s'inquiète que son ado soit con, elle rêve de boire des coups en laissant son bide à son mec, elle s'interroge, elle panique, elle est maladroite, elle est franche, elle essuie les questions et réflexions débiles de ses enfants et de son mec. Bref, elle est une femme banale qui nous emmène avec humour et parfois cynisme dans les affres et le quotidien de la maternité. C'est drôle, frais, rapide, efficace, ça fait souffler et respirer. Bref, une série animée bien inspirée qui nous fait du bien, qui nous soulage. On peut encore créer, dire, montrer, faire entendre, parler, partager, rigoler, s'offrir des moments d'égoïsme, mais aussi de sororité et d'adelphité. Bref, on kiffe.
Ah bah je connaissais pas, mais vous m'avez donné vraiment envie d'aller découvrir cette Douce, de voir.
Elle est présentée comme une Homer Simpson au féminin, avec beaucoup plus de modernité, on va dire quand même.
Bah il était temps qu'il y ait une Homer Simpson au féminin. Et puis quant à la censure que subissent de plus en plus les artistes, le monde culturel, parce que des ultra-cathos, gens du RN l'exigent, on sait d'où vient le danger finalement. Hein. On ne veut pas le montrer non plus, mais on sait d'où il vient. Merci beaucoup Marine.
It's Britney, bitch. It's Britney, bitch.
Je vous le disais, Gwen n'est pas avec nous, elle le regrette, je sais, on la regrette aussi, mais un impondérable s'est posé à elle cet après-midi. Donc, comme elle est pleine de ressources, elle est ni une ni deux, je fais ma chronique, je l'envoie et on écoute ça tout de suite.
Alors Morgane, aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique musicale, j'ai choisi de vous présenter Nina Reiser. Nina Reiser, c'est une artiste américaine, DIY, homemade, faite maison, pourrait-on dire. Elle est née, elle a grandi à Brooklyn, État de New York, et elle vit désormais à Philadelphie, en Pennsylvanie, depuis 10 ans maintenant. Dès son plus jeune âge, elle écrit des chansons, prend des cours de piano et se découvre une passion pour l'enregistrement do-it-yourself avec un magnétophone Fisher-Price. Elle étudie ensuite la composition musicale et la musique électronique au Bard College de New York. Son amour de la composition l'amène à jouer avec une variété d'instruments et d'ensembles, et même avec l'American Symphony Orchestra. Elle a joué dans de nombreux groupes au fil des années, dont Palberta, un trio art punk pop de 2013 à 2023, dont les 8 albums ont tous été salués par la critique du New York Times à NPR Music, Rolling Stone ou Pitchfork. Tout cela sans l'aide d'un agent ou d'une grande maison de disques. Nina a conçu et mixé des albums pour plusieurs groupes dans son home studio, y compris 7 albums solo pour lesquels elle a enregistré et joué elle-même tous les instruments. Son projet solo de synth pop expérimental a pris de nombreuses formes, mais toujours constitué de compositions synthétiques luxuriantes, de boîtes à rythme, de divers appareils électroniques et de mélodies à tendance pop. Ses concerts, comme ses enregistrements, intègrent généralement des paysages sonores instrumentaux et des interludes bruitistes. La musique de Nina Reiser est une collection singulière d'enregistrements maison centrés sur les claviers qui marient une indéniable sensibilité pop à une esthétique onirique plutôt étrange. Je vous invite vivement à diguer et à plonger, comme je l'ai fait, dans ces paysages sensibles. Nina Reiser, c'est un pilier de l'underground américain depuis plus d'une décennie, son univers si particulier lui valant un véritable culte. Artiste polymorphe, performeuse, vidéaste, graphiste, Nina Reiser a aussi à cœur de transmettre aux enfants, et aux filles en particulier, l'art de composer en bricolant leurs propres instruments électroniques. C'est aussi une artiste naturaliste qui dépeint l'ordinaire avec beaucoup de poésie. En 2023, elle écrit et produit un EP de 13 minutes 30, très intimiste, Lofi, composé de 5 titres écrits durant les jours qui ont précédé et suivi la mort de son chien Billy. Cet album est disponible sur les plateformes de streaming. Un album court dont elle dit qu'il a été écrit sans fioritures, librement inspiré, presque sans retouche et en temps réel. Un hommage à un ami qui se meurt, un album qu'elle offre à celles qui ont souffert. C'est doux, évaporé et enragé, tout ça à la fois, comme les étapes d'un deuil difficile. Un piano désaccordé à la Diane Johnston, des synthés emmêlés ou une clarinette dissonante, autant de contrepoints à la voix étouffée, légèrement éraillée de Nina, aux paroles douces et amères comme des larmes de Nina. C'est beau, empreint de tendresse et pas si triste quand même. En attendant, je vous propose, Morgane, d'écouter le premier morceau et titre éponyme de cet album, « I Miss My Dog ».
Merci Gwen, effectivement, on va écouter « I Miss My Dog » de Nina Reiser.
I miss my dog. Thank you.
Nina Reiser, I Miss My Dog sur Canal B dans Les Héroïnes. Ça, c'était l'excellent choix de Gwen Pacott. Merci Gwen. Alors, savez-vous qui a dit « La science est le moyen fondamental pour modifier, dans le bon sens, la condition humaine ?» Je vous arrête tout de suite, c'est pas Donald Trump. Non, non, non. Cette phrase est d'Étienne-Émile Baulieu, décédé la semaine dernière. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est à cet endocrinologue, pardon, et biochimiste que l'on doit la mise au point de la pilule RU486, la pilule abortive commercialisée en 1988 et encore utilisée aujourd'hui pour les IVG médicamenteuses. Et à l'époque, ça n'a pas été sans mal face aux politiques et aux religieux dits pro-vie. On doit aussi la commercialisation de cette pilule au ministre de la Santé d'alors, Claude Évin, qui a eu le courage politique qu'il fallait avoir pour contrer les anti-choix et exiger du laboratoire pharmaceutique qui fabriquait le RU486 qu'il continue de le produire en mettant en avant l'intérêt de santé publique et en déclarant, je le cite, le RU486 est devenu la propriété morale des femmes. Deux hommes qui ont soutenu les femmes. On sait que dans les héroïnes, nous aimons souligner ce genre d'initiative. Je vais pour autant vous parler d'un autre mec, mais lui, il est beaucoup moins fun. Vous connaissez Pierre-André Durand ?
Non, mais je sens qu'on va pas l'aimer.
Pierre-André Durand, c'est le préfet d'Occitanie. Et connaissez-vous le cheval de bataille de ce monsieur ? Est-ce l'égalité salariale ? L'accès à l'avortement pour tous, partout, tout le temps ? La défiscalisation de la pension alimentaire ? Non, 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 non. Lui, il se bat contre les congés menstruels. Ben oui, parce que lui, bien sûr, il sait ce que ça fait d'avoir très mal au ventre, au point de ne pas pouvoir quitter son lit, au risque de tomber dans les pommes. Ça, c'est sûr, il est au courant. En 2022, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Haute-Garonne avait mis en place un dispositif permettant aux personnes souffrant de règles douloureuses de s'absenter un jour par mois, sans retrait de salaire et sans justificatif médical, jusqu'à 6 fois dans l'année. Alors, passé les 6 fois, il fallait produire un certificat médical. Eh bien, ça, c'est terminé. Le préfet Pierre-André Durand a dit stop, basta, on arrête. Alors bien sûr, il n'y a aucune loi qui prévoit ce congé menstruel dans la fonction publique, mais quand même, parfois on se demande si les préfets, ils n'ont pas d'autre chose à faire que de mettre un terme à ce genre d'initiative plutôt positive. Et j'imagine que ce monsieur, Pierre-André Durand, se fiche pas mal aussi de savoir, de connaître les pertes de salaire liées à la maternité et à la ménopause subie par les femmes en France. Et ça, ça sera ma troisième actu aujourd'hui. La lauréate du prix de la meilleure jeune économiste 2016, Camille Landais, avait déjà mis en évidence que la naissance d'un enfant entraînait une forte perte de revenus pour les mères. En France, elle est de 25%, en Italie de 33%, en Allemagne 41%. En moyenne, les femmes perdent donc entre 20 et 40% de leurs revenus dans les 10 ans qui suivent la naissance d'un enfant. Et quand arrive la ménopause, rebelote, les femmes, elles perdent encore du salaire, 10% en moyenne. Ça, c'est une récente étude américano-britannique qui le révèle. Parce que la ménopause, c'est de la fatigue, des migraines, de la dépression, des états de stress, des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur, des insomnies, des douleurs articulaires, des problèmes de concentration, entre autres. Et avec tous ces symptômes si sympathiques et surtout invalidants, il est fort probable qu'on a plus de mal à travailler. On est souvent, on a du mal à se concentrer, on réduit son temps de travail, on prend moins de responsabilités. L'étude démontre que la probabilité de demander des prestations d'assurance invalidité augmente de presque 5% dans les 4 années qui suivent le diagnostic de la ménopause. Alors bien sûr, les 17 millions de personnes concernées par la ménopause en France ne subissent pas de plein fouet tous les symptômes que j'ai cités. Hein. Parfois, on s'en chope un, deux, trois, parfois plus. C'est une vraie loterie, un grand loto.
Grand loto de l'univers. J'ai pas tiré le bon numéro.
Voilà, hein, chacun, chacune son problème avec sa ménopause. Alors, autre inégalité, autre discrimination. L'étude montre que le phénomène de diminution de salaire touche plus les femmes sans diplôme et celles aux faibles revenus. Parce que les autres, elles sont informées, elles connaissent les traitements qui peuvent les aider, elles peuvent aussi se les acheter, parce qu'il y a là aussi un énorme problème. Tous les traitements, notamment naturels, qui peuvent atténuer les manifestations de la ménopause, ils ne sont pas remboursés. Et il faut compter en moyenne 30 euros par mois. Voilà. Je vous en avais parlé ici il y a quelques semaines. Un rapport parlementaire contenant 25 mesures a été rendu en avril dernier sur le sujet. On attend donc les mesures et puis surtout, on attend que la ménopause soit un sujet de débat sur la justice sociale et l'égalité. Allez, retour à Rennes où le dernier bar LGBT+ de Rennes, l'Attrape-Rêve, a lancé une cagnotte pour éviter la fermeture. L'Attrape-Rêve, c'est plus qu'un bar, c'est un refuge pour beaucoup de jeunes Rennais et Rennaises. Il est géré par Erel Ledan qui se démène pour ne pas fermer. Alors il faut savoir par exemple que elle augmente pas ses tarifs malgré l'inflation. Pour ne pas accabler ces jeunes clients-clientes, souvent précaires. Elle organise des drag shows tous les 15 jours, des karaokés aussi, des blind tests le dimanche. Demain, samedi 7 juin, elle organise un dance floor à partir de 17h avec DJ Queer Tonic. Donc ça se passe après la marche. Vous pouvez aller danser à l'Attrape-Rêve, puis après retourner à l'étage pour continuer à danser. Vous pouvez marcher, aller à l'Attrape-Rêve. Je vous fais votre
marcher
petit...
Marcher et danser.
Marcher, danser, aller à l'Attrape-Rêve, éviter que l'Attrape-Rêve ferme, puis aller à l'étage et continuer la fête jusqu'à tard. Et moi, je vous mettrai bien sûr le lien de la cagnotte sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B pour aller aider l'Attrape-Rêve. Deux petites news dans l'agenda. D'abord, c'est aujourd'hui que paraît Débordé Bolloré. On vous nous en a parlé ici, hein, puisque Clara, qui fait partie des éditrices qui participent à ce projet, nous avait expliqué de quoi il s'agissait. Il faut absolument acheter ce manifeste. Autre date à noter dans vos agendas, là c'est dans un mois. Si demain c'est la Grande Marche des Fiertés à Rennes, et ben dans un mois c'est la troisième édition du Vide-Grenier Féministe organisé par Nous Toutes 35, qui aura donc lieu le 5 juillet. Samedi 5 juillet, au Café des Champs Libres de 14h à minuit et demi, il y aura, outre les vêtements de seconde main, des échanges, des discussions, une tombola, un karaoké, le samedi 5 juillet au Café des Champs Libres à partir de 14h. Le 29 mai dernier, on dénombrait 60 féminicides depuis le début de l'année en France. 60 femmes mortes parce que femmes. 12 par mois, 3 par semaine. Moi, je me demande quand même ce que cela aurait été si Emmanuel Macron n'avait pas fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de ces deux quinquennats. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On va écouter Flora Frankensas, The Ghost Is Me.
Pictures in the hall.
The Ghost Is Me, c'est Flora from Kansas dans les héroïnes sur Canal B. Rebonjour Emma.
Rebonjour.
Emma, vous êtes présidente du DISKIS, Centre LGBTI+, de Rennes. Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, il y a un mois, la maison du parc des Tanneurs, bâtiment municipal situé au 6 rue Saint-Martin, est mise à la disposition du centre. A une nouvelle fois été la cible de dégradation. Ainsi débute le communiqué de presse que vous avez envoyé à la presse. Déjà, lors d'un week-end d'avril, entre le 19 et le 21 avril précisément, le centre subissait un acte de malveillance à caractère haineux, de la peinture balancée sur les portes-fenêtres et un tag. Au même moment, l'escalier arc-en-ciel de l'université Rennes 2 était encore une fois saccagé par un vulgaire et minable tag homophobe. Alors ces attaques, elles s'inscrivent dans un climat général d'homophobie, de transphobie, de biphobie, de queerphobie. Ainsi, il y a 15 jours, juste au moment de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, c'est-à-dire le 17 mai, le ministère de l'Intérieur faisait paraître les derniers chiffres concernant les actes anti-LGBT+, et ils sont très alarmants puisque les infractions anti-LGBT+ ont augmenté de 5% en France l'année dernière. Les crimes et délits sont eux en hausse de 7%. Et encore, ces chiffres s'appuient sur les plaintes et déclarations des victimes. Certaines n'osent pas aller parler, déposer plainte. Environ 4% d'entre elles seulement déposeraient plainte. Donc la réalité est sans doute plus dramatique encore. Entre 2016 et 2023, les infractions contre les personnes LGBTI+ ont augmenté de 15%. On parle d'insultes dans la rue, de harcèlement, de cyberharcèlement, de violences physiques. Alors, dans ce climat, SOS Homophobie déplorait récemment qu'en France, des discours haineux, discriminants sont de plus en plus fréquents et entraînent en fait dans leur sillage des comportements et des actes répréhensibles comme l'attaque de la librairie queer Les Vagues récemment à Nantes. Emma, j'imagine que vous partagez le point de vue d'SOS Homophobie, les discours entraînent les actes.
Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qu'on constate. En fait, plus il y a une désinhibition au niveau de la parole dans les médias, par des politiques, etc., de la parole haineuse, et bah plus ça se traduit en actes après dans la rue. Voilà, donc quand on dit que les mots sont que des mots, en fait, pas tant que ça.
Ouais, c'est comme ce qu'on voit en ce moment avec le racisme et cette parole aussi décomplexée qui amène des actes. En préparant l'émission, j'ai appris, et je pense que, en tout cas, Emma et Marine, vous êtes au courant, mais peut-être auditeuriste, vous l'êtes aussi. C'est l'annonce de la TERF et Trekancel, J.K. Rowling, de la mise en place d'un fonds privé financé par les profits Harry Potter pour soutenir les initiatives juridiques transphobes. Et donc ça fait partie de tout cet environnement-là. Et là, j'ai pensé à vous, Marine, parce que moi, Harry Potter, ça m'est passé. J'étais trop vieille, mes enfants n'ont pas adhéré. Et est-ce que ma question, elle peut paraître un peu violente. Faut-il encore lire Harry Potter? Que faire de la série qui arrive sur HBO? On fait quoi? On boycotte? Emma, Marine, je vous pose.
Alors, nous, on est assez unanimes là-dessus. C'est vrai que dans le milieu LGBTI+ militant, ça fait assez longtemps finalement qu'on boycotte tout ce qui est de J.K. Rowling, y compris Harry Potter. Et puis bon, aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle série? Au final, il y a déjà 8 films même. Ça fait beaucoup. On peut peut-être mettre à l'honneur des œuvres différentes, écrites par des auteurs plus divers aussi, qui sont aussi plus tolérants et qui écrivent des choses très bien.
Marine, vous n'avez pas envie de répondre à cette question, je le sens bien.
Non, moi j'écoute des émissions justement sur faut-il continuer avec justement les personnes concernées aussi qui en parlent. Et effectivement, c'est tout un débat. Après, je vous rejoins Emma sur est-ce que il faut faire une nouvelle série alors qu'on connaît très bien les livres et les films et cautionner encore une fois les agissements et les comportements de J.K. Rowling, ou est-ce que on pourrait pas plutôt laisser la place et ouvrir la porte à des talents qui mettraient en scène beaucoup plus de réalisme en fait et de enfin de féminisme de wokisme, n'ayons pas peur.
Ouais, de diversité peur. Quoi dans
voilà
les
exactement
œuvres.
Et pourtant hein, en France notamment la loi interdit et punit les discriminations liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de sanctions tant au niveau des discours que des actes répréhensibles violents?
En fait, la loi contre les discours haineux, elle est très mal appliquée au final. Et aussi dans les médias, les organismes de régulation, quand on sait qu'il a fallu je ne sais combien de signalements à l'ARCOM pour que Cyril Hanouna soit enfin devant, doive enfin répondre de ses paroles, je trouve ça incroyable. Il a quand même harcelé à l'écran pendant de nombreuses années un de ses collaborateurs qui est gay. Donc voilà. À partir de quel moment on dit stop quoi. Nous, on pense qu'il aurait dû avoir un stop beaucoup plus tôt. Et en fait, ça fait partie de la banalisation en fait de ces paroles-là. En fait, oui, on se dit oh, c'est des blagues, c'est pas grave. Voilà, c'était juste un canular. Et au final, ça se traduit après par des actes violents.
Et des actes violents et aussi une nouvelle génération des plus petits qui banalisent ça aussi en s'insultant avec des mots particuliers entre eux parce que Cyril Hanouna l'a fait pendant des années sans être puni quoi. Donc c'est vraiment des dangereux à la fois de banaliser et à la fois de ne pas sanctionner. Dans le monde entier hein, c'est pas qu'en France on voit les droits des personnes LGBT+ attaqués quand ce n'est pas par le premier ministre hongrois Viktor Orban qui interdit la Pride en Hongrie, c'est Trump qui signe des décrets transphobes. Est-ce que on pourrait parler de backlash? Est-ce que après avoir obtenu, je pèse mes mots, hein, certaines petites avancées, ça serait le fameux retour de bâton?
On en parle, c'est vrai. Ça me fait un petit peu penser au backlash qu'il y a eu après toute la période de libération sexuelle des années 70. Les années 80-90 ont été caractérisées par un peu un retour du conservatisme sur les questions de mœurs. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on observe là. Alors, on parle aussi un peu sur la question féministe de backlash à MeToo, par exemple. Après, il faut savoir que le backlash ne cache pas que les progrès sont réels, mais par contre il faut qu'on ait conscience que les progrès ils sont peut-être réels mais ils sont fragiles en fait sur la question des droits et que le progrès il n'est pas forcément linéaire et qu'on peut pas juste se reposer sur des acquis. C'est pour ça que des fois on nous dit oh, mais pourquoi est-ce que vous continuez à militer, vous avez eu le mariage pour tous. Bon, déjà le mariage pour tous c'est pas forcément le Graal de l'égalité, c'est une très belle avancée qu'il faut célébrer, mais c'est pas le tout. Il y a encore plein de populations parmi les personnes LGBT qui sont discriminées. Je pense aux personnes trans, par exemple, qui subissent encore énormément de discrimination. Donc, en fait, on ne va pas s'arrêter au mariage pour tous. Et puis, surtout, on sait que des droits, ils peuvent être mis en cause. Donc, c'est aussi pour ça qu'on cherche à rester attentif et à rester mobilisé, en fait.
Et pas plus tard que l'an passé, quand il y a eu la constitutionnalisation de l'IVG, où on a retiré le mot personne pour privilégier le mot femme, et on excluait de cette constitutionnalisation de l'IVG toute une partie de la population française. Et c'était volontaire, puisque Aurore Berger était derrière cette volonté de modifier le texte en mettant femme et pas personne. Et on sait que les hommes trans peuvent tomber enceintes et avoir besoin d'avorter ou être aussi subir la ménopause dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais de 17 millions de personnes et pas 17 millions de femmes. C'est toujours en fait, c'est constant, il faut être vigilant constamment.
Ah oui carrément. C'était pour invisibiliser les personnes trans en fait quand elle a fait ça. Et on sait que Aurore Berger, elle est proche du coup de plusieurs personnes qui se prétendent féministes et qui en fait sont juste transphobes.
On va pas les citer, on va pas leur faire de la pub comme à ceux qui attaquent Iskis ou qui attaquent l'escalier de Rennes 2. L'agglomération parisienne et les communes de plus de 200 000 habitants, comme Rennes en fait, concentrent 55% des actes anti-LGBTI+. Est-ce que cela veut dire que dans les plus petites villes ou en milieu rural, on n'ose pas affirmer son orientation sexuelle, on est plus discret de crainte voilà, d'heurter et de se prendre de la violence.
Il y a certainement ça, je pense. Il y a aussi le phénomène où les gens se connaissent beaucoup plus personnellement. Et du coup, aller porter plainte contre son voisin qu'on croise constamment au marché, au magasin, à l'église, tout ça. Du coup, auprès du gendarme qui est le meilleur ami de ce fameux voisin, bon bah, c'est pas forcément facile. Je connais des gens qui ont eu un peu cette difficulté-là, que bah, en fait, les personnes qui les victimisaient, bah, en fait, c'était des personnes qui, par ailleurs, avaient des amis dans la police, à la mairie, partout, c'était des gens bien, comme il faut, propres sur eux, bien intégrés. Et du coup, c'était la personne victime qui se retrouvait minorisée à côté, quoi.
Ouais, donc c'est peut-être plus aussi cette crainte d'aller porter plainte quand il y a une attaque contre ses droits, une insulte, un propos discriminant, une violence. L'an passé, en 2024, la Marche des Fiertés à Rennes a fêté ses 30 ans et il y a eu entre 15 et 20 000 personnes dans les rues de Rennes pour y participer. Demain, samedi 7 juin, cette marche est organisée, cette Marche des Fiertés. Elle va s'élancer de l'esplanade Charles de Gaulle à 14 heures. Et là, esplanade Charles de Gaulle, en fait, il y a un village associatif qui sera installé dès 11 heures. Emma, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans ce village associatif ?
Eh ben déjà, on va pouvoir y trouver toutes les associations qui font le paysage LGBTI+ rennais, les associations alliées aussi. Alors, parmi les associations LGBTI+, y aura Esquisse, forcément, Contact, SOS Homophobie, Le Refuge, La Frappe, toutes les assos qui composent ce paysage. Je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a trop. Parmi les associations alliées, il y aura toutes les associations féministes, comme le Planning Familial, par exemple, les Pétrolettes qui seront là aussi. Et il y aura un village santé aussi où on pourra se faire dépister ou parler de santé sexuelle. Donc ça, c'est tous les ans, c'est très important de le rappeler. Et qui seront là toute la journée aussi pour faire ça. Il y aura aussi, évidemment, tous les alliés aussi niveau syndicaux. Tous les syndicats seront là. Il y aura aussi des food trucks. Il y aura des créatrices queer qui seront là pour vendre leurs œuvres. Donc ça va être une journée bien chargée avec pas mal de choses à voir.
Ouais, riche en possibilités, en échanges. Il y a cette nouvelle affiche, on en parlait tout à l'heure en fait avec Emma, cette nouvelle affiche très réussie pour la Marche des Fiertés. On peut nommer la personne.
Ah oui, carrément.
C'est un illustrateur, c'est ça ? C'est qui a fait cette belle affiche ?
Alors c'est Ismaël du coup, qui est vraiment très talentueux et qui en fait il a eu l'idée intéressante cette année de vouloir avoir des militants qui sont réellement des militants en fait rennais qui ont participé à des marches des fiertés. Donc en fait il a demandé parmi les associations, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient bien poser avec des affiches qu'ils ont tenues pendant la Pride pour justement reproduire un peu une marche comme ça sur cette affiche. Donc du coup, ça donne un aspect très réaliste finalement. Et il y a aussi du coup, justement pour le côté un peu paysage rennais, on a voulu avoir des bâtiments qui soient emblématiques de Rennes, comme les tours de Maurepas par exemple, ou les colombages du centre-ville. Et du coup, un petit clin d'œil à la première marche de Rennes qui s'est tenue en 1994. Du coup, les militants sur le reflet, du coup, dans l'eau de la Vilaine, sur l'affiche, ont des masques. Et en fait, c'est un clin d'œil à cette marche parce qu'en fait, en 1994, il n'y avait pas toutes ces lois contre les discriminations et il y avait des personnes qui voulaient défiler, mais qui avaient peur de se faire reconnaître par des voisins, des employeurs, tout ça. Et du coup, qui défilaient masqués. Et puis, au final, au fur et à mesure de la journée, avec l'ambiance qui était détendue, qui était joyeuse, y a des gens qui ont fini par enlever leurs masques. Et ces masques restent toujours dans les archives du centre.
Et donc l'affiche rend hommage à ces gens qui ont participé à cette première marche il y a 30 ans. Marine, je vous en prie.
Oui, j'ai une question justement. Vous parlez de 1994 avec des gens qui ont envie de défiler mais qui peuvent avoir peur. Est-ce que aujourd'hui il y a toujours cette peur qui peut freiner des personnes queer à participer à la marche des fiertés, ou est-ce qu'aujourd'hui la visibilité justement de la marche des fiertés aussi entraîne un contexte plus safe?
Alors oui et non sur le contexte plus safe. Oui, en effet, il y a de plus en plus de participants et de participantes à la marche des fiertés. Ça, c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de gens qui se sentent en confiance pour venir. Ça veut dire que le pari aussi que nous on fait en tant qu'organisateur de faire cet événement et de le rendre le plus accessible et le plus safe possible, bah, c'est une réussite. Il y a encore des gens, malheureusement, on sait, qui n'osent pas venir, des gens qui soient out ou pas d'ailleurs auprès de leurs proches, hein, mais il y a des gens qui n'osent pas encore venir. Et puis il y a des gens pour qui ce sera leur première Pride et qui sont un peu nerveux aussi, donc nous on reçoit des coups de fil en ce moment de gens qui nous disent « Ah là là, comment est-ce que je dois m'habiller pour venir ? Est-ce que je peux venir habiller comme je veux ? Est-ce que je peux venir avec des drapeaux ? Est-ce que les transports en commun ça va être safe ?» Tout ça, donc ouais, beaucoup d'inquiétudes des fois.
Alors s'il y a bien un endroit où on peut être habillé comme on veut, ou coloré ou pas, ou c'est bien ici, quoi, où s'il y a une grande tolérance, et enfin, c'est même pas une question de tolérance, quoi, c'est bien dans oui. cette marche-là où on peut être qui on veut, s'habiller comme on veut et venir, voilà, marcher avec tout le monde, soit parce qu'on est concerné, mais je crois que tout le monde est concerné en fait, soit parce qu'on est solidaire. Et justement, le mot d'ordre de cette marche 2025, quel est-il, Emma ?
Alors du coup, le mot d'ordre qu'on a choisi pour cette année en interorga, du coup avec toutes les associations qui font le paysage militant LGBT et alliés, c'est lutte queer féministe antiraciste contre les frontières, faisons bloc. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que justement, on voulait un rapprochement entre toutes ces luttes, entre les luttes féministes, les luttes queer et les luttes antiracistes, parce qu'on se dit, ça sert à rien de militer chacun dans son coin. Les discriminations, c'est systémique, et les discriminations se rejoignent et des fois pèsent sur la vie des personnes qui sont concernées par plusieurs discriminations. Donc du coup, on a voulu un rapprochement entre ces causes-là, et aussi parce qu'on, en fait, on se connaît entre militants, on sait qu'on manifeste tous ensemble souvent, donc on s'est dit on va justement mettre ça en évidence aussi pour contre la tentation du repli sur soi de certaines. Il y a des personnes, malheureusement, même dans nos communautés, qui ont la tentation du repli sur soi, de faire confiance au RN qui dit mais en fait c'est les méchants musulmans qui vous persécutent, et en fait s'ils n'étaient pas là vous auriez rien à craindre au final, que ce soit pour les femmes ou pour les personnes LGBT. Et en fait nous on sait que c'est pas du tout vrai, et que voilà, les discours de haine ils viennent de l'extrême droite aussi principalement. Donc en fait il y a cette tentation du repli sur soi, et nous, du coup, nous on veut combattre ça aussi au sein de nos communautés, en disant bah en fait non, ces luttes là elles sont pour tout le monde. Il y a aussi des personnes racisées et des personnes même musulmanes dans la communauté LGBTI+, et ces personnes elles méritent aussi d'être mises un peu à l'honneur en fait dans les marches.
Je l'ai dit, ça commence à 11h avec le village associatif Esplanade Charles de Gaulle. La marche se met en route à 14h et puis on pourra poursuivre. Alors on fait un crochet à la Trappe-Rêve, puis on revient et on peut poursuivre la soirée avec la 12e édition de la Nose Pride à l'étage du Liberté, c'est ça ?
Oui.
Et alors comment ça va se dérouler ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, voir à l'étage ?
Alors du coup, pour la Nose Pride, on essaye de renouveler justement chaque année la proposition d'artistes et de mettre à l'honneur des artistes qui n'ont pas forcément eu l'occasion encore de se produire aux Libertés. Et du coup, cette année, on va avoir un spectacle d'ouverture par les Orphelines, qui est un collectif de drag queens.
Marine connaît.
Moi, je les adore.
Et ben moi, ce sera la première fois que je les verrai, donc je suis très contente. J'ai jamais le temps d'aller voir des drag shows. C'est ça, de l'associatif, on est toujours occupé en soirée. Et du coup, il y aura du whacking aussi, c'est une danse. Alors du coup, on connaît d'autres danses plus connues de la communauté LGBTI+, mais le whacking, c'est aussi une danse qui est née de la communauté LGBTI+. Après, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, il y aura aussi des DJ sets en fin de soirée pour pouvoir danser aussi jusqu'au bout de la nuit, comme on dit.
L'entrée de cette soirée, elle est interdite aux mineurs. Il y a 3 tarifs en fonction de voilà de son pouvoir d'achat en fait, de qui voilà comment on peut combien on peut mettre. Il y a un tarif solidaire.
Oui, alors du coup, ça c'est pour les personnes justement qui peuvent se permettre de mettre un peu plus pour soutenir l'association, parce que nous, du coup, on met le tarif justement pour les personnes qui sont, par exemple, précaires, aux minima sociaux, tout ça, à 7 euros. Et si on vendait toutes nos places à 7 euros, bah, on serait largement en perte. Et du coup, on met en place le tarif solidaire pour que s'il y a des gens qui peuvent mettre ce prix-là, et bah, qu'ils le mettent, et ça permette de compenser pour les tarifs plus réduits.
On sait qu'à Paris, la marche aura lieu le 28 juin, mais il y a plein de marches en Bretagne. Il y a de plus en plus de villes en Bretagne qui organisent des marches. Vous m'avez dit, Emma, que Vannes, c'était en mai, et que là, il y a d'autres villes qui organisent une marche courant juin.
Oui, alors du coup, il n'y aura pas un seul week-end de juin où il n'y aura pas de marche en Bretagne.
Ça, mais c'est bien, tant mieux. Ouais, c'est Lorient, Quimper, Saint-Brieuc, faut se renseigner, ouais. Brest, voilà, pour pouvoir aller marcher et être solidaire. Ouais, Marine, je vous en prie.
Oui, moi j'ai la question de parce qu'on sait que militer c'est fatigant, c'est prenant. Ce mois de juin, du coup, mois des fiertés, les marches des fiertés, on sait que enfin voilà, il y a une organisation importante derrière. C'est fatigant, mais on est aussi boosté par ce qui se passe au moment de la marche. C'est stimulant de pouvoir s'exprimer collectivement dans l'espace public, pas que de manière festive, il y a aussi des revendications politiques, etc. Le reste de l'année, justement, comment vous puisez cette force militante au quotidien face, on en a parlé, à ce climat un peu délétère et inquiétant?
Ah, c'est une question qui est assez récurrente dans les communautés militantes et puis LGBTI+. Voilà, c'est le comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres finalement, parce que on sait que faut pas forcément attendre grand chose de la société en général pour en termes de care, on va dire. Et du coup, bah ouais, faut vraiment prendre soin les uns des autres. Nous, on sait beaucoup entre nous, avec nos amis, on se fait des soirées, on s'en parle les uns les autres régulièrement. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien et qu'on le remarque, on va vers cette personne, on essaye justement de l'écouter, de voir. On essaye de se dire les uns les autres quand on est fatigué, quand on a besoin de faire une pause.
On a le droit justement de le dire qu'on est fatigué et de faire une pause.
Oui, c'est pas parce qu'on est très investi dans l'associatif qu'il faut jamais faire de pause. C'est un peu le piège du burn-out qui arrive à beaucoup de personnes militantes, malheureusement. Et du coup, voilà, ces dernières années, il y a beaucoup de réflexions dans les milieux militants sur comment est-ce qu'on prend soin justement les uns des autres là-dessus.
Alors, on parle de militantisme et d'associatif sur l'année. Est-ce qu'on peut donner des infos pratiques où vous trouvez? Est-ce qu'il y a des permanences? Est-ce que vous pouvez nous dire ça pour les auditrices qui seraient intéressées?
Alors nous, en tant que centre LGBTI+, on essaie de rester ouvert toute l'année. Pour l'instant, c'est le cas. Cette année, il n'y a pas de fermeture estivale de prévu. Donc on fait des permanences tous les mercredis de 18h30 à 21h30. Tant qu'il y a des militants qui sont là pour animer, on reste ouvert. Ça, c'est un peu le truc principal qui arrive chaque semaine. Mais sinon, on a aussi des groupes de parole tous les mois. On a environ, je crois qu'on a 7 groupes de parole en tout, tous les mois.
Oui, quand même. Ouais. C'est pas mal, ouais. C'est riche.
Ouais, plus des moments de convivialité, club de lecture, club ciné, repas conviviaux, voilà.
Et on vous trouve 6 rue Saint-Martin, c'est la maison du parc des Tanneurs. Ouais. Et aussi sur internet, on vous identifie assez vite, ISKIS, centre LGBTI+, de Rennes, pour avoir des infos, un numéro de téléphone. Vous êtes assez réactif et réactive et présent.
On essaye.
Non, mais moi je le confirme. Alors, je vous ai demandé, Emma, un morceau de musique, un choix, voilà, qui serait le vôtre. Et vous m'avez donné un titre, vous m'avez proposé un vieux Kate Bush que j'ai trouvé juste parfait. Vous voulez bien me dire pourquoi on va diffuser ce morceau pour terminer notre émission? Qu'est-ce qui représente pour vous ces cloud busting?
Oui, alors c'est un morceau qui parle de joie, de trouver la joie dans les moments difficiles. Et ouais, c'est justement quelque chose qui anime un peu le militantisme. C'est dur des fois le militantisme. On entend beaucoup parler de mauvaises nouvelles. On essaye de se tenir au courant de l'actualité et l'actualité, elle n'est pas toujours réjouissante. Et du coup, en fait, cette chanson, c'est un peu un petit talisman qui dit qu'en fait, c'est dans ces moments difficiles, il faut trouver le petit morceau de joie qui permet justement de tenir. Voilà.
Donc on va écouter dans un instant Kate Bush avec Claude Busting. On va se dire au revoir. Emma Guiguin, merci beaucoup d'être venue nous parler au micro des héroïnes. Je le rappelle, c'est demain la Marche des Fiertés, 7 juin. Ça commence à 11h pour ceux qui voudraient découvrir le village associatif Esplanade Charles de Gaulle. Ensuite, on marche à partir de 14h, puis on fait la fête jusqu'au bout de la nuit. On fait un crochet par la trappe rêve. Marine Combes, merci beaucoup pour cette présence lumineuse et brillante. Et nous, on se dit à bientôt, sans doute le 20 juin, je crois. On se retrouve le 20 juin. Voilà, on parlera sport, roller, derby, normalement. Allez, bon week-end, bonne marche demain. À bientôt. I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it special?
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Canal B, radio curieuse.